Voici une question dont la réponse sera bénéfique pour tous nos auditeurs. Quelles sont les différentes manières de récolter ce que l'on sème? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui saura enrichir votre vie aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je pense qu'on a probablement tous entendu cette expression « on récolte ce qu'on sème ». Quand je l'ai entendu pour la première fois, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Donc, je savais pas que cette expression était dans la Bible. Aujourd'hui, les Saintes Écritures vont nous enseigner de belles choses à ce sujet. Voici les questions qu'on va poser au Seigneur. Est-ce que celui qui nous enseigne la parole de Dieu a droit à un salaire? Quelles sont les différentes manières de récolter ce qu'on sème? Est-ce que notre conversion annule les conséquences de nos péchés d'autrefois? Qu'est-ce qu'on récolte quand on fait le bien? Qu'est-ce qu'on récolte quand on fait le mal? Comment pouvons-nous réellement faire le bien? Y a-t-il une catégorie de gens envers qui le croyant doit surtout pratiquer le bien? Restez là, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce que dit la Bible concernant la semence et la récolte éventuelle qui provient de la semence. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tu vas semer des belles choses dans nos cœurs aujourd'hui. On est reconnaissant envers toi. Que ça nous amène à semer dans les cœurs. Que ça nous amène à donner, Seigneur, ce que tu nous donnes, qu'on puisse le donner en retour à nos semblables, pour que tu sois glorifié dans nos vies et dans la leur. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'un chrétien a la responsabilité de redresser avec douceur un frère surpris en faute. Nous devons ainsi porter les fardeaux les uns des autres. Mais nous ne devons pas négliger de nous examiner nous-mêmes, car nous aussi nous pourrions tomber dans le même péché. Le Seigneur travaille dans notre cœur et il n'a pas terminé avec nous son travail. Donc, lorsqu'un frère ou une sœur tombe, n'oublions pas que le Seigneur travaille aussi dans sa vie. Nous ne devons jamais perdre espoir que ce frère ou cette sœur grandira aussi un jour. Nous avons vu qu'il y a deux types de fardeaux. Les fardeaux que je peux partager avec d'autres et les fardeaux que je dois porter moi-même. Par exemple, si je suis pris en faute, un frère ou une sœur peut m'aider et m'encourager. Le chagrin, les infirmités, les faiblesses sont des exemples de fardeaux que d'autres peuvent nous aider à porter. Cependant, un fardeau, tel la maladie ou la souffrance, doit être porté par nous-mêmes. Finalement, nous avons vu que nous ne pouvons ni partager ni porter le fardeau de nos péchés. Dieu tiendra chacun responsable de ses péchés. Il ne punira pas un autre être humain à ma place. Par contre, si nous portons le fardeau de nos péchés nous-mêmes, c'est la condamnation éternelle qui nous attend. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, sans défaut et sans tâche, afin qu'il porte le fardeau de nos péchés à la croix. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude de l'Épître de Paul aux Galates, au verset 6 du 6e chapitre. Débutons notre lecture, Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Celui qui enseigne la parole a droit à un salaire. Ce verset est très clair, chers amis. Paul ne fait pas de détour. Paul dit, sans équivoque, « Payez votre pasteur. Si quelqu'un vous fait du bien spirituellement, contribuez à son salaire. Si Dieu vous a béni avec des biens terrestres, et qu'une personne est l'instrument de Dieu pour vous bénir spirituellement, alors vous devriez partager de vos biens avec cette personne. Ce partage est quelque chose qui se fait gracieusement, mais qui n'est pas imposé. Cependant, si vous allez à l'épicerie et que vous passez devant la caisse sans payer, vous serez dans l'eau chaude, pour ne pas dire bouillante. Bien des gens vont à l'église et ils y sont bénis. Cependant, ils ne contribuent rien financièrement à leur église. Personne ne dit rien. Cependant, la parole de Dieu nous demande de supporter ceux qu'il a établis pour nous enseigner, ceux qui nous bénissent spirituellement. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà une loi immuable. Nous récoltons ce que nous semons. Nous sommes devant une loi immuable, chers amis, celle qui opère dans toutes les sphères de la vie. Dans le domaine de l'agriculture, si tu sèmes du maïs, tu récoltes du maïs. Si tu sèmes des tomates, tu récoltes des tomates. Si tu sèmes du blé, tu récoltes du blé. Il en est ainsi dans le domaine moral aussi. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Un jour, un visiteur dans un pénitencier passa devant la cellule d'un détenu qui réparait une chemise avec du fil et une aiguille. Voulant faire la conversation, le visiteur lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu couds? » « Non, répondit le détenu, je récolte ce que j'ai semé. » C'est ce que dit ce verset. Ce principe est immuable, invariable, inchangeable, irrévocable. On ne peut ôter un seul trait de ce principe, et il s'applique à tous les domaines de la vie. Du grain de blé fut trouvé dans une tombe égyptienne. Il y était là depuis environ 5000 ans. On en sema, et du blé poussa. Le grain était toujours du grain de blé, même après 5000 ans. Nous récoltons ce que nous semons. Un homme de Dieu récolte ce qu'il sème. Ce principe est illustré par la vie de plusieurs personnages bibliques. L'un d'eux est Jacob, dont nous pouvons lire le récit dans les chapitres 27 à 29 du livre de la Genèse. Jacob a trompé son père Isaac afin de voler la bénédiction de son frère Ésaü. Il s'est vêtu de peau de chèvre afin que son père aveugle le prenne pour son frère. Après cette supercherie, Jacob dut s'enfuir chez son oncle Laban, car Ésaü voulait le tuer. Jacob pensait s'en être tiré, mais il goûta à sa propre médecine. Il a récolté ce qu'il a semé. Laban avait deux filles, Léa et Rachel. Jacob tomba amoureux de Rachel, la cadette, qui était plus belle que sa sœur aînée. Il travailla 7 ans pour l'avoir comme épouse, mais le jour du mariage, lorsqu'il leva le voile de la mariée, il découvrit qu'on lui avait donné Léa. Il dut travailler un autre 7 ans pour Rachel. Jacob avait trompé son père en se faisant passer pour son frère aîné, et il fut trompé par Laban qui lui donna l'aîné en mariage plutôt que sa sœur cadette. Un méchant récolte ce qu'il sème. Au chapitre 21 du premier livre des rois, Achab et Jézabel ont comploté pour faire périr Naboth, afin de s'emparer de son vignoble. Le roi désirait le vignoble, mais Naboth refusa de vendre la terre de ses ancêtres conformément à la loi mosaïque. Mais Achab et Jézabel régnaient sur Israël, et Jézabel trouva de faux témoins pour faire condamner Naboth. Puis ils saisirent le vignoble. Ils pensaient s'en tirer, mais Dieu leur envoya un prophète. Ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Un roi, chapitre 21, verset 29. Plus tard, Achab fut blessé au combat. Il saigna à mort sur son char de combat. Après la bataille, on conduisit son char près de la piscine de Samarie pour le nettoyer. Les chiens verts léchaient le sang d'Achab. L'apôtre Paul est aussi un exemple intéressant. Il participa à la lapidation d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Il surveillait les vêtements, ce qui indiquait qu'il était probablement un des responsables. Plus tard, après sa conversion, alors qu'il évangélisait en Galatie, il fut lapidé. Nous penserions que parce qu'il s'est converti et que ses péchés furent pardonnés, qu'il ne récolterait pas ce qu'il a semé. Mais c'est une loi immuable. Nous récoltons ce que nous semons. La conversion n'annule pas les conséquences des péchés d'autrefois. J. Vernon McGee, l'auteur dont nous adaptons les textes, raconte cette anecdote. Il connaissait un alcoolique qui s'était converti et qui était devenu un évangéliste. McGee l'avait invité à son église pour une campagne d'évangélisation. Un soir, après une réunion d'évangélisation, un groupe de personnes, dont McGee et l'évangéliste, se retrouvèrent dans un restaurant. Tous se commandèrent un banana split ou un milkshake, un lait frappé. L'évangéliste ne commanda seulement qu'un petit verre d'eau minérale. Il se fit taquiner et quelqu'un lui demanda pourquoi il ne prenait que cela. « Lorsque le Seigneur me donna un nouveau cœur à ma conversion, » expliqua l'évangéliste, « il ne me donna pas un nouvel estomac. Je paie pour toutes les années pendant lesquelles j'ai abusé de la boisson. » Je vous le répète, chers amis, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. J'aimerais que les gens se rendent compte que ce principe est effectif. Plusieurs consomment de la drogue aujourd'hui, d'autres cherchent une satisfaction dans les relations sexuelles. Ensuite, les gens récoltent ce qu'ils ont semé. Je connais des personnes qui ont détruit leur cerveau avec de la drogue. D'autres ont attrapé des maladies transmises sexuellement à cause de leur libertinage. Des adolescentes sont devenues stériles à cause de certaines maladies. Les MTS se répandent de plus en plus. Même si une personne se convertit, elle n'échappe pas aux conséquences de leur péché. Nous récoltons ce que nous semons. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Récolter la vie éternelle comprend le fruit de l'esprit sur terre et les bénédictions glorieuses dans l'au-delà. Soyons prudents et examinons ce que nous semons. Cherchons-nous un plaisir et une satisfaction temporaire dans les choses du monde? Nous récolterons déception et corruption. C'est une folie de penser que nous pouvons renverser l'ordre établi par Dieu. C'est une folie de penser que nous pouvons pratiquer le mal et récolter le bonheur et le bien. Si vous avez semé pour la corruption, c'est seulement une véritable repentance qui vous permettra de déraciner ce que vous avez semé. Notre temps sur terre est un temps de semence. Nous semons ce que nous récolterons pour l'éternité. Lorsque nous commençons à faire le mal, à vivre strictement pour les plaisirs du monde, sans tenir compte de Dieu, cela ne paraît pas être un geste grave. Nous ne voyons que la petite semence au début. Mais celle-ci pousse sans que nous la voyions, et un jour, nous aurons notre récolte. Soit pour le bien, soit pour le mal. Voici un exemple très concret. De nombreuses personnes regardent du porno pendant leur enfance ou pendant leur adolescence. Sans s'en rendre compte, ils en deviennent dépendants. Nous pouvons être aussi accros du porno qu'un narcomane l'est de sa drogue. Une petite curiosité mène à des années de souffrance, même des mariages détruits. Un jeune peut consommer de l'alcool ou de la drogue pour le simple plaisir, par curiosité la première fois. C'est une semence qui semble inoffensive. Mais pour de nombreuses personnes, elle mène à des années de dépendance et de souffrance. La semence croît et un jour, c'est la récolte. Ceci est vrai pour les relations interpersonnelles. Un chrétien que je connais a négligé son épouse et ses enfants pour travailler de longues heures. Pendant que son épouse était seule à la maison, elle a pris l'habitude de faire du clavardage sur Internet. C'était anodin au début, mais la récolte suivit la semence. Elle quitta son mari pour un homme rencontré sur Internet. Le mari a aussi récolté ce qu'il a semé. Laisser son épouse trop seule pour toujours travailler ne semblait pas grave, mais la semence a donné son fruit. Nous semons, mais nous ne voyons pas la graine germer. Un jour elle sort de terre, mais la plante est jeune et nous ne distinguons pas le blé de l'ivraie. Mais un jour, nous découvrons que nous avons récolté de l'ivraie, c'est-à-dire la malédiction. Certains chrétiens devraient craindre le retour du Seigneur Jésus pour les siens, car à ce moment-là, nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ pour rendre compte de toutes nos actions. Mes amis, vous serez sauvés, mais vous pourrez tout de même être embarrassés lorsque vous ferez un rapport de vos œuvres. Jean mentionne qu'il sera possible d'être honteux au moment de son retour. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. 1 Jean chapitre 2 verset 28. Si vous vivez selon la chair, vous produirez des œuvres selon la chair. Cela ne signifie pas que vous perdrez votre salut, mais vous serez honteux et vous aurez des regrets lorsque vous comparaîtrez devant lui. Paul vient d'allumer un feu rouge, maintenant il va en allumer un vert et nous donne un petit mot d'encouragement. Verset 9 de Galates chapitre 6. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ceux qui font le bien récoltent des bénédictions. Un père s'inquiétait au sujet de son fils. La philosophie du monde est contre moi. Le système scolaire est contre moi. Les autres parents et certains de mes amis s'opposent à moi. Cependant, je veux que mes enfants soient bien élevés. Si tel est votre désir, mes amis, permettez que je vous encourage à semer de la bonne graine, de la bonne semence. Soyez patients et vous récolterez ce que vous avez semé. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, dit Dieu par le prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 10 et 11. Abraham crut à Dieu et marcha dans le pays de Canaan. À cette époque, les habitants du pays étaient méchants et idolâtres. Abraham eut un fils, Isaac. Lorsqu'il devint un jeune homme, Abraham l'amena sur le mont Morija afin de le sacrifier à la demande de Dieu. Celui-ci ne laissa pas Abraham aller jusqu'au bout. Abraham sema pour l'esprit, et il récolta la vie éternelle. Jochébed était la mère de Moïse. À cause des temps atroces dans lesquels les Hébreux vivaient, elle élabora un plan afin de sauver la vie de son fils. Et il fut adopté par la fille de Pharaon. Dans sa providence, Dieu permit que Jochébed soit la nourrice embauchée par la fille de Pharaon. Elle s'occupa de son propre fils alors qu'il était jeune. Elle en profita pour semer du bon grain dans son cœur et lui parla de Dieu, de son alliance faite à l'égard d'Abraham et de ce merveilleux plan divin pour la descendance d'Abraham. Ensuite, il retourna au palais où il fut éduqué par les Égyptiens. Toute l'Égypte était contre Jochébed, la culture du pays, les plaisirs du pays, la philosophie égyptienne et la religion égyptienne. Oui, tout était contre Jochébed. Il n'y avait rien dans tout cela pour attirer Moïse vers Dieu. Mais un jour, Moïse laissa tous les plaisirs de l'Égypte et il prit sa place parmi son peuple. Jochébed récolta ce qu'elle avait semé. Nous avons aussi une illustration de cela dans la vie de David. Son péché fut grave et il étonna son entourage. Bien des gens pensent qu'il était un homme cruel et pécheur, mais ce n'est pas le péché qui a caractérisé la vie de David. Une tache d'encre se voit beaucoup mieux sur une nappe blanche que sur un habit noir. La tache sur la nappe se voit de loin, mais elle est presque invisible sur l'habit sombre. Il y avait des rois cruels au temps de David, mais leurs crimes n'étonnaient personne et ne se remarquaient plus. Mais lorsque David pécha, cela attira l'attention de tous. David aimait Dieu, et Dieu disait que David était un homme selon son cœur. Sa confession révèle sa soif de connaître Dieu. Mais David sema aussi pour la chair et il en récolta les conséquences dans la vie de ses fils. Il négligea ses fils et il en porta les conséquences. nous semons ce que nous récoltons, chers amis. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Un fermier qui sème du blé sait qu'il récoltera du blé. S'il sème un jour, il ne retourne pas dans son champ le lendemain pour y récolter le blé. Il attend que celui-ci pousse. Une graine ne pousse pas instantanément, mais si le fermier a pris le temps de bien préparer son champ et de bien l'irriguer, il sait qu'il aura un jour une récolte. Chers amis, si nous faisons le bien, si nous nous conformons à la parole de Dieu, nous aurons une belle récolte, ici sur terre et dans l'au-delà. J'ai rencontré une chrétienne, une fille, qui aimait le Seigneur. Elle fut élevée dans une famille chrétienne. Ses parents étaient chrétiens, et ses grands-parents l'étaient aussi. Il en était de même pour ses arrière-grands-parents. D'une génération à l'autre, chacun a semé de bons grains. Chacun a semé pour la vie éternelle. En temps et lieu, chacun a récolté. Persévérons à faire le bien. La récolte suivra en temps et lieu. C'est en marchant selon l'Esprit que nous faisons le bien. Verset 10 de Galates 6. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. C'est en marchant selon l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire le bien. Maintenant, Paul dit que nous devons pratiquer le bien. C'est là ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Les chrétiens doivent faire de bonnes œuvres. Je crois qu'il faut faire le bien, mais avec la bonne motivation. Nous devons désirer plaire à Dieu qui a manifesté sa grâce envers nous et qui désire que nous marchions selon son esprit. Lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous produisons le fruit de l'Esprit. Nous faisons ce qui est bien aux yeux de Dieu. Nous lui sommes agréables. Nous ne le faisons pas pour gagner notre ciel, mais nous le faisons parce que nous avons reçu le ciel. C'est alors que nous faisons vraiment le bien. Nous faisons le bien à tous, spécialement envers les autres croyants. L'Église du Seigneur Jésus est formée de l'ensemble des croyants nés de nouveau, de tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui sont venus à Jésus. C'est ce qu'on appelle parfois l'Église invisible. Cette Église se manifeste dans des assemblées locales de différentes confessions religieuses. Dans la plupart des assemblées, nous trouvons des faux croyants parmi les véritables croyants, et ce malgré les efforts pour n'accepter que des croyants comme membres. Nous devons faire du bien premièrement à nos frères et sœurs dans la foi. Il y a un lien spécial entre ceux qui aiment Jésus-Christ. Cher ami, laisse-moi te poser une seule question. Aimes-tu Jésus? Aimes-tu celui que Dieu nous a envoyé, celui que Dieu nous a donné? L'aimes-tu vraiment? L'aimes-tu du fond de ton cœur? Le verset 11 nous dit « Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. » Cette section traite de trois signatures. La première est la grosse écriture que Paul a employée en rédigeant la lettre de sa propre main. La deuxième signature est la circoncision, la signature de la religion et de la loi. La troisième signature est celle de Jésus. Ce sont les marques que Paul portait sur son corps. Nous verrons ces signatures à la prochaine émission. Cette émission sera la dernière du livre de Galates. Pendant ce temps, portez-vous la marque de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Galates, chapitre 6, les versets 11 à 18.
Merci, Régent. Tu as mentionné que même si une personne se convertit, elle n'échappe pas aux conséquences de ses péchés. C'est encore là une autre manière de récolter ce qu'on sème. Je me sens particulièrement touchée par ce fait. Mes amis, vous qui écoutez nos émissions depuis le début, vous vous rappelez sûrement que j'ai mentionné à quelques reprises qu'avant de connaître le Seigneur, il y a eu une période où j'ai consommé pas mal de drogue. Et je croyais que c'était inoffensif à l'époque. c'était simplement de la marijuana, du haschich, mais aussi éventuellement de la cocaïne. Pendant environ un an avant ma conversion, je consommais au moins un de ces hallucinogènes chaque jour. Je ne réalisais pas à quel point ça affectait ma santé physique et ma santé mentale. Aujourd'hui, même si ça fait plus de 27 ans que je n'ai pas touché à la drogue, je me rends compte que j'ai un système nerveux assez fragile. Il m'arrive assez souvent de souffrir d'insomnie et j'ai un peu de difficulté avec la mémoire. Et je sais que ce sont des conséquences de ma vie tumultueuse d'autrefois, sans compter qu'à certains moments, je prenais aussi pas mal d'alcool. Je sais que Dieu m'a tout pardonné, mais il reste que je dois vivre avec ces conséquences. Mais par contre, mes amis, soyez certains que je ne vous dis pas ça pour me plaindre, puisque je sais pertinemment que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il m'arrive assez souvent de croire que l'insomnie, par exemple, est une écharpe dans ma chair, comme celle de l'apôtre Paul. Dieu permet ça pour m'empêcher de m'enorgueillir et pour que j'aille davantage à Lui pour obtenir la force et la sagesse dont j'ai besoin pour le servir dans les ministères qu'il me confie, tels que la louange et l'évangélisation. Dieu est bon envers nous, n'est-ce pas? Je suis certaine que tous les croyants sont d'accord avec moi. Et toi, mon ami, se pourrait-il que tu sois aux prises avec la drogue, ou l'alcool, ou quelque autre dépendance? Cherches-tu le moyen de t'en sortir? Ce moyen existe. Et tu peux même recevoir encore plus qu'une délivrance. Tu peux recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Il y a quelques années, j'ai donné mon témoignage à la télé dans le cadre d'une émission où des personnes qui avaient été délivrées de la drogue ou de l'alcool racontaient comment ils s'en étaient sortis. Les autres personnes avaient toutes suivi une thérapie assez longue et assez pénible, et je les admire pour les efforts qu'ils ont faits afin de cesser de consommer un jour à la fois. Mais dans mon cas, c'est différent. Je n'ai aucun mérite. Le jour où j'ai reçu le plein pardon de mes péchés, le jour où j'ai placé ma confiance en Jésus seul pour être sauvé et recevoir le don gratuit de la vie éternelle, j'ai été scellé de l'Esprit de Dieu. Il est venu faire sa demeure en moi et en même temps, il m'a délivré par miracle de toutes ces dépendances ainsi que d'autres péchés qui étaient dans ma vie. Et gloire à Dieu! Mon ami Jésus peut faire la même chose pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. Il a vaincu la mort et il a vaincu le tentateur. Il a vaincu le péché et ses conséquences. Alors si tu te repens et si tu reçois Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu peux être délivré du mal et tu peux devenir un enfant de Dieu. Tu peux avoir la vie éternelle.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.